L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi et rediffusée à 18h. Le vivre ensemble, il favorise une culture d'accueil et d'ouverture, il valorise les ressources locales. C'est aussi une culture de l'autre et de la rencontre. C'est abandonner l'individualisme pour faire la part belle à la coopération. Et c'est ce que nous tentons de valoriser tous les jours sur Radio Évasion. Et quand je suis arrivé dans l'équipe, on m'a demandé de chercher des sujets originaux qui rentreraient dans la ligne éditoriale. Et j'avoue, j'ai peiné. Jusqu'au jour où un homme est monté sur scène pour présenter ses travaux lors d'une conférence sur le design. Des travaux sur le mobilier urbain pour la plupart. Et on est d'accord, cela pourrait n'avoir strictement rien à voir avec le vivre ensemble. Et pourtant. En quelques minutes, cet homme avait réussi le plus simplement du monde à détruire les idées que je m'étais fait du monde du design. Il m'a montré le vivre ensemble invisible. Il m'a montré comment le design favorise le vivre ensemble par des objets ou par ces petites choses du quotidien qui nous lient sans que nous le sachions. Et justement, savez-vous, chers auditrices et auditeurs, comment dit-on lien en breton? On le traduit par « skloum ». En supprimant le « s », on obtient « kloum » et on obtient surtout le nom d'un atelier de designers quimpérois. Et je suis ravi d'avoir avec moi aujourd'hui un de ses fondateurs, celui qui a brisé mes idées reçues, Antoine Mingui. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Alors Antoine, est-ce que le vivre ensemble a toujours été votre leitmotiv, que ce soit personnellement ou professionnellement?
Alors, je pense que le vivre ensemble, personnellement, ça a toujours... que ce soit dans la vie de famille ou avec les amis ou même simplement la rencontre d'inconnus, c'est toujours, ça fait partie même de la définition d'être vivant. Et dans le design, le vivre ensemble, finalement, c'est venu assez, comme une évidence, puisque finalement, les objets de design, s'ils existent, parce qu'ils servent aux humains, et donc... c'est des objets qui sont déjà sociaux, qui sont déjà en fait à notre image. Donc le vivre ensemble en découle ensuite, c'est-à-dire que c'est en tout cas devenu rapidement une priorité dans le travail que de favoriser la rencontre et l'échange et le partage autour de nos différentes créations.
Et ça, c'est sûr. Et pourquoi avez-vous choisi les beaux-arts et plus spécifiquement le design?
Alors, les beaux-arts, donc j'ai fait en fait un parcours au lycée avec une option art plastique. Donc c'était une suite un petit peu logique. Et puis l'idée, c'était aussi de pouvoir partir faire des études à l'extérieur, voilà, partir un petit peu de Quimper, qui est ma ville natale. Et donc aux beaux-arts de Rennes, particulièrement, il y avait une belle énergie qui se dégageait au moment. Et donc, moi et ma conjointe et collègue de travail, Bénédicte Rousset, du coup, on a choisi de faire nos études ensemble là-bas. Et il se trouve qu'au Beaux-Arts, en fait, il y a la première année qui est uniquement artistique et vraiment, ils appellent ça l'année propédeutique, qui est vraiment ouverte, très ouverte à différentes pratiques. Et ensuite, on doit choisir. Et effectivement, il y a l'aspect très concret du design, l'aspect aussi un peu... de pouvoir être utile, de répondre à un vrai besoin. Et donc, je pense que ça a été le premier appel, quoi, autour du design. C'est vraiment ça, l'idée de répondre aux besoins de quelqu'un.
Alors, il existe d'autres moyens que les beaux-arts pour rentrer dans le monde du design? Parce qu'il existe en plus plusieurs formes de design, il me semble.
Alors, ouais, il y a plein de formes de design. Il y a plein d'écoles de design. On peut passer par des écoles qui vont être plus techniques ou plus appliquées. Donc il y a des filières, que ce soit par les filières d'art appliqué, dans les lycées techniques, dans les études supérieures, en fait, où on va pouvoir intégrer des écoles comme l'ENSI, par exemple, les ateliers à Paris, qui vont proposer des choses beaucoup plus concrètes aussi, avec un travail aussi avec des partenaires qui sont industriels ou fabricants. Il y a l'ECAL, qui est une école à Lausanne, par exemple, qui est très reconnue aussi. Enfin, il y a beaucoup d'écoles. Il y a l'école Boulle également, qui forme des designers, mais par différents biais. Hein. Des fois, des parcours de sculpteurs font de très bons designers. Ron Arad, qui est un très, très grand designer reconnu, était avant tout un sculpteur, par exemple. Donc, finalement, les choses se nourrissent et sont prégnantes.
Alors, vous avez choisi le mobilier urbain et notamment les bancs. Qu'est-ce que ça représente pour vous, un banc?
Bah, un banc, c'est une chaise qu'on a allongée pour être à plusieurs. Donc, c'est un peu ça. Je pense que quand on parlait du design social ou du rapport à l'autre, je pense que c'est aussi ça. Bénédicte avait fait, maintenant ça date déjà un petit peu, hein, il me semble que c'est autour de 2008, une résidence autour du banc dans le pays du Cap Sizun. Et donc, on a résulté un travail justement autour du banc et qui a beaucoup nourri notre travail depuis. Donc, ça, c'est des travaux qu'on peut voir sur notre site internet hein, pour ceux qui voudraient visiter. Et donc, effectivement, il y a eu tout un travail autour du banc parce que pour nous, c'est l'Assemblée nationale du citoyen, voilà, d'un quotidien beaucoup plus universel. On est dans la politique du vivre ensemble au jour le jour, quoi, avec un banc.
D'accord, donc ça crée une espèce d'interactivité, ça invite à l'interactivité entre deux personnes.
Au moins deux, ouais, c'est ça.
Au moins deux, oui. Alors, ce qui est rigolo, c'est que il arrive parfois qu'on découvre un nouvel objet dans un environnement connu, par exemple, bah justement, un banc dans un espace public, ou alors un nouveau bâtiment qui pourrait en remplacer un autre. Et on entend souvent cette réaction, oh là là, que c'est moche, c'est quoi ce truc? Comment fait-on pour rendre un objet intéressant dans le sens attractif. Est-ce qu'on doit comprendre le cheminement intellectuel de l'être humain pour que ça matche entre un objet et une personne?
Alors, on peut avoir besoin de le comprendre. En tout cas, on doit pouvoir proposer un objet qui va à la fois ajouter une fonction là où il va arriver, il va répondre à un besoin ou à plusieurs besoins, et puis il va aussi nous interpeller. Et peut-être que, alors, je dirais pas qu'on design des objets pour les rendre intéressants, mais en tout cas, on suscite l'intérêt des usagers avec un objet qui va peut-être leur faire un petit pas de côté par rapport à ce qu'ils voient d'habitude et à leur quotidien. Et donc, que ce soit un appel, une surprise, en tout cas, qui viennent en contraste avec l'environnement existant. Et en même temps, il faut aussi qu'ils le respectent. Donc, il y a un fil à trouver entre les deux, un équilibre à ajuster. Mais finalement, je pense que c'est ça l'action de dessiner un banc dans l'espace public, que ce soit un banc ou un éclairage ou voilà, toutes sortes d'objets finalement.
Alors, du coup, ce serait quoi la petite astuce pour essayer de comprendre cette espèce d'a priori face à un objet qui nous paraît un petit peu étrange, un petit peu bizarre? C'est quoi? Se poser la question, mais pourquoi il est là? C'est quoi la note d'intention?
Bah, déjà, je pense qu'il faut pouvoir écouter son premier sentiment, c'est-à-dire on voit un objet, qu'est-ce qui nous communique, qu'est-ce qui se passe en nous, parce qu'en fait, il y a vraiment un lien entre une forme et l'effet qu'elle produit. C'est-à-dire que si on est avec des mobiliers très carrés, par exemple, très modernes ou avec des matériaux qui vont être froids, on ne va pas avoir du tout le même effet que si on est sur un élément très arrondi avec un matériau, par exemple, comme le bois, qui va être beaucoup plus chaud. Donc, je pense que la posture de l'usager, elle doit être d'abord dans l'usage. C'est vraiment bête, hein, mais c'est pas intellectuel, justement. C'est avant tout très concret. Et donc, nous, en tant que designer, quand on propose un objet, en tout cas, on essaye de s'inspirer du lieu dans lequel il va prendre place. S'il y a bien une chose, je pense que ce sera celle-là.
D'accord. Alors, on peut appliquer un petit peu une méthode différente plutôt que d'essayer de comprendre pourquoi l'objet est là, c'est de faire un petit peu de co-design. Et vous avez designé justement un projet de banc végétalisé avec une association. Vous pouvez nous en parler un peu?
Oui. Alors, donc c'est un projet en fait qu'on a mené dans le cadre de l'exposition des frères Renan et Rohan Bouroulec en 2016 à Rennes. Et donc c'était une commande de la part des Champs Libres pour créer un espace de travail un petit peu interactif avec des habitants pas créer un espace, mais un temps de travail et donc un atelier de design avec une sélection d'habitants qui sont proposés pour y participer. Et donc, ce qu'on a proposé, nous, c'était de créer un projet de design qui soit très participatif et qu'on puisse intégrer en fait les participants à la conception des objets et qu'ils soient même concepteurs eux-mêmes de leur propre projet.
C'était
Donc,
sur la base du volontariat. Hein.
Voilà, c'est ça.
Et c'était quoi, en fait, l'argument pour eux de participer à ce projet? Ils se sont dit, tiens, un designer, j'y connais rien, ça peut m'intéresser. C'était quoi
Alors, il y a eu en fait un appel à participation de la part des Champs Libres à Rennes. Et c'est des gens qui répondaient en fait pour participer à un atelier avec un artiste intervenant autour de la notion de végétal. Voilà. Et donc, ensuite, nous, on a rencontré cette personne qui nous a donc sollicité pour le projet au Champ Libre. Et on a proposé, en fait, le support d'un mobilier urbain qui intègre du végétal. Et donc, de lancer, en fait, un atelier de création de projet, hein, mais vraiment, là, du premier coup de crayon, finalement, jusqu'à la maquette et jusqu'à l'objet final. Et je pense que ce qui motivait ces personnes, c'était de se rendre compte effectivement de la démarche en fait qu'il peut y avoir pour un artiste avant l'objet fini, et puis de participer ensemble à ce projet. Donc c'était les deux motivations en tout cas qu'on nous a rapportées. Les usagers, c'était ça qui les a attirés, quoi.
Comment ça s'est passé concrètement? Vous leur avez donné des bouts de papier, du scotch et puis et des crayons. Ils sont mis à faire du découpage pour essayer de modéliser un espace.
Alors en fait, on a phasé en fait l'approche, à savoir que on a en fait fait un peu ce qu'on fait au bureau quand on travaille sur des projets au quotidien, c'est-à-dire que on prend pas mal de notes et puis ensuite on les range. Donc on a fait pas mal de prises de notes avec eux par thème, en se disant voilà un usage, un lieu, une posture, un matériau par exemple, voilà. Et ces séries de contraintes faisaient en fait office de cahier des charges. Donc on les passe à la moulinette ensuite et puis dans l'entonnoir pour qu'il n'en reste que le voilà l'essentiel. Mais il y a eu un premier travail de réflexion et de débriefing, voilà. Donc c'est un mot anglais, mais vraiment c'est ça, je trouve. Faut pas, sinon on détricote et on retricote pour créer des projets ensemble. Ensuite il y a eu une phase de maquette, donc c'était rapide, hein. C'est un travail qui s'est déroulé sur une semaine, donc voilà, il y a eu ces premiers jours là de travail de maquette. Et puis ensuite, une fois que cette semaine-là s'est terminée, donc on a fait pas mal de prises de vue avec eux, ils ont aussi rédigé leurs notes d'intention, hein, ce qu'on nous demande aussi de faire à nous en tant que prestataire de service de design quand on travaille par exemple pour la commande publique. On les a vraiment mis dans cette posture. Et puis ensuite, il y a eu un second temps, quelques jours plus tard, une seconde petite semaine un peu plus courte, où on leur a présenté un projet de mobilier urbain qu'on a créé donc à partir de loges bovines. C'est souvent ces abreuvoirs qu'on voit posés au milieu d'une prairie, dont on s'est servi en fait, dont on a proposé de se servir comme bac de culture finalement pour intégrer les substrats de culture, la terre et les différents granulats. Et ensuite on a dessiné différents couvercles en bois de type pergola, de type hôtel à différentes plantes aromatiques ou plantes flottantes par exemple. Et donc on a créé ces plateaux avec eux. Donc on leur a proposé le projet sur lequel ils ont adhéré, puisque finalement c'était la même démarche qu'on leur avait fait faire au départ. Donc on faisait juste la même chose qu'eux, mais là on allait pouvoir le fabriquer ensemble en fait. C'était ça le but. Et donc on a rapporté les plans à l'échelle 1, les 3D des différents mobiliers, et puis on a fabriqué ensemble. Donc on avait la matière première, du Douglas de pays, voilà, un bois qui résiste à l'extérieur. Et puis, on a mené ce projet avec eux de fabrication, avec du coup la reprise sur plan sur le matériau lui-même, et puis utiliser les objets, s'initier aussi à la précision de ces différents assemblages à créer. Enfin, il y avait tout un tas de disciplines.
Et parmi ces gens,
qui venaient compléter en fait, la phase de réflexion qui était en premier lieu, quoi.
Oui. Et parmi ces gens, est-ce que tout le monde savait manipuler une circulaire ou une scie, ou est-ce qu'il y a eu des petites surprises?
Bah, il y a eu des surprises, et justement, en fait, c'est ça qui est aussi l'intérêt de ces projets. C'est en tant que tel le projet et l'objet fini. C'est presque un but secondaire. Finalement, c'est le moment qui était vraiment fort. Et donc oui, il y a eu pas mal de choses. On s'est aperçu au cours de route que les plus timides au départ pouvaient se retrouver quasiment chef d'atelier en dernier lieu. Voilà, parce qu'il y a aussi plein de confiance. Il y a des jeux de confiance qui se jouent, des échanges et puis presque des rôles, une hiérarchie qui s'installe petit à petit. Enfin, voilà, c'est le but aussi de ces projets-là, hein, c'est de voir que les équipes se forment. Donc, il y avait une personne, par exemple, qui était passée par plein de d'obstacles difficiles, et puis qui avait quitté l'aspect concret, voilà, de couper une planche ou de façonner un objet avec ses mains, et qui était vraiment complètement désœuvré, et qui en tremblait d'avance de prendre le rabot. Et puis bah voilà, il y a eu un très beau moment où, en fait, il approche le rabot en route, voilà, on le met en confiance, et puis il faut qu'il attaque la planche. Il tremble beaucoup, et puis au moment du contact de la machine au bois, bah, en fait, ses mains se sont stabilisées complètement. Ça a été, mais vraiment quelque chose de. Ça nous a complètement saisis. Et cette personne, en fait, nous a avoué après. Donc, elle termine sa planche, hein, qui faisait 2 mètres de long, et puis arrivée au bout de la planche, elle coupe la machine et dit: bon, ça, c'est super, je pensais pas pouvoir le refaire un jour. En fait, il avait été menuisier
Oh.
et il avait arrêté ce travail-là depuis quelques années, et puis il était passé vraiment par plein de phases très très dures, quoi, qui ont fait quitter ça. Et du coup, c'était beau de se dire, bah voilà, si ça en plus permet à certains de pouvoir à nouveau retoucher la matière et de se retrouver. Bah, en fait, c'était des beaux moments, ouais.
Oui. J'imagine aussi que vous n'avez pas mis n'importe quelle plante dans ces auges. Vous avez dû faire un travail de recherche. Donc j'imagine qu'en plus de ça, vous cherchez auprès de botanistes ou peut-être même de pépiniéristes pour pouvoir mettre
C'est
des.
ça, c'est ça. Hein. C'est ce qu'on a. En fait, on a développé cette démarche-là depuis le départ, hein, dans notre travail, de se dire là où on va faire un projet, si on a besoin de se fournir en matière première, eh ben, on va quand même essayer en premier lieu de fouiller autour. Et puis, si on trouve pas, bon, ben, on fouille un peu plus loin. Mais ça nous est jamais arrivé finalement de se retrouver asséché là-dessus. Et donc, on a travaillé à la fois avec les serres de la ville de Rennes, et puis on a travaillé aussi avec différents horticulteurs et pépiniéristes autour de la ville de Quimper, et qui ont en fait répondu présent rapidement. En fait, c'est le réseau local qui a tout de suite nourri le projet en termes de fabrication. Les Auges, c'est pareil, elles venaient du sud de Rennes. C'était un fabricant de matériaux agricoles, en fait. Hein. C'est un peu un ready-made, cet objet-là. On a juste utilisé un objet de l'industrie agroalimentaire pour pouvoir, agricole en tout cas, pour pouvoir créer un mobilier. Donc, en fait, les plantes qu'on a intégrées aux différents mobiliers ont été sélectionnées à la fois par thème, c'est-à-dire qu'on voulait des plantes qui soient odorantes, qui soient soignantes et médicinales, et puis on voulait aussi, par exemple, qu'il y ait des comestibles. Donc, ben, y avait un mobilier qui pouvait contenir des petits fruits type myrtille, type raisin, vigne, voilà, par exemple, des choses comme ça. Des odorantes aussi, juste pour le plaisir de sentir le jasmin en passant dans la rue. L'idée, c'est de vivre avec la plante et de venir s'installer, et la plante est à hauteur d'homme. Et puis, si on a besoin de récupérer même un brin de menthe pour faire un mojito le soir, ou pour en mettre dans le taboulé le midi, ou juste pour voilà, le mâcher tranquillement en marchant avant d'aller prendre le métro. Enfin, là, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'effectivement, le design allait jusqu'à la sélection de ces plantes-là. Ouais.
On va parler un petit peu de vos recherches assez rapidement. En parlant du projet Clapot, donc on va revenir un petit peu sur les bancs, un projet qui était une commande, je crois, publique de la ville de Rennes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où viennent vos inspirations
Alors, pour ce
pour ce
bon,
projet, oui.
donc c'est Clapot, c'est un mobilier qui prend place près de la Vilaine à Rennes. Le marché public pour lequel on a répondu, que c'était un concours artistique, mais qui a la forme finalement d'un marché public, demandait à ce qu'il y ait des mobiliers étonnants qui soient installés dans la ville. Et donc, il y avait différents endroits, et il y avait cet emplacement près de la Vilaine, derrière le stade de Rennes. Et déjà, on passe à côté de l'eau. Donc, en fait, il y avait quand même une première base d'inspiration qui était de se dire, ben, si on parle de l'eau, on va parler du parcours de la rivière jusqu'à la mer, par exemple. Donc, rien que ça, déjà, ça donne des idées de formes qui vont peut-être être organiques. Et puis, Alors, il y a différentes sources d'inspiration. Par exemple, j'en discutais pas plus tard qu'hier, et même tout à l'heure avec ma collègue, qui elle n'a pas la même inspiration. Donc, elle disait, bah non, moi, c'est le mouvement d'une vague que je figue, que je fige. C'est juste la vague, c'est comme si on la prenait en photo. Et puis, il y a différents arrêts sur image. Et puis, on va en créer des positions de confort en reprenant le dessin. Et puis, ben moi, par exemple, ce mobilier-là, j'imaginais, voilà, je voyais par exemple ma petite fille qui secouait un drap au soleil debout sur le lit dans notre chambre. Et je m'imaginais effectivement que ça pourrait s'arrêter et puis qu'elle pourrait s'allonger dedans, qu'elle pourrait jouer dans cette forme un petit peu douce et un petit peu enveloppante, ou peut-être même voilà, faire des galipettes ou glisser sur un toboggan. Enfin. Et donc, voilà, c'était différents types d'inspiration, mais la base, c'était par exemple l'eau, la rivière autour, le site, et de s'inspirer en fait du site dans lequel prend place l'objet, et puis ensuite amener un petit peu de fantaisie, de poésie là-dedans, en se rappelant aussi à des situations du quotidien, qui sont parfois, qu'on voudrait, ouais, pouvoir arrêter pour toujours, pouvoir s'y installer.
Ben oui, parce qu'en fait, ces bancs, ils ont une forme de vague et du coup, ils invitent, comme vous le dites, à plein de choses, à faire du toboggan, se poser, s'allonger et aussi à pouvoir s'allonger, s'abriter en cas de mauvais temps. Et évidemment, si je vous parle des bancs anti-SDF avec l'accoudoir au milieu, c'est quelque chose qui vous hérisse le poil, j'imagine.
Bah, c'est toujours un peu embêtant de se retrouver avec des objets qui ont une base vraiment saine, c'est-à-dire qu'on a besoin de banc, on a besoin de prendre une pause dans l'espace public, mais de se dire l'accoudoir, finalement, qui est un objet de confort, devient en fait un support d'empêchement, une barrière en fait. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un aspect un petit peu difficile, puisque si on voulait qu'il y ait un vrai confort, on mettrait deux accoudoirs et pas un seul. Donc c'est vraiment, c'est du design, c'est un design sournois. C'est un design qui est nécessaire, entre guillemets, pour certaines collectivités, pour éviter en fait d'avoir à montrer ça aux touristes, en fait, hein, parce que c'est ça la vraie problématique. En fait, c'est les problématiques de dynamique économique, hein, les réponses. En fait, ces objets-là, il faut bien se dire que c'est des réponses à des demandes. Donc, s'il y a des personnes qui demandent ça, on va en faire. Personnellement, je ne dessinerai pas de banc comme ça. Effectivement, je préfère qu'on glisse et qu'on rigole et qu'on puisse s'allonger. Ouais.
Ça ne me surprend pas de vous. On va parler un petit peu d'autre chose. Donc, ce banc-là qui était fait, c'était un banc qui a été construit donc en aluminium thermolaqué. Donc, c'est une façon d'avoir une certaine durabilité. Hein. C'est une forme d'écologie, je reprends vos propres mots. Mais vous utilisez aussi des matériaux recyclés, voire même issus de certaines recycleries, et notamment pour le projet de l'expo Mémoire vive du château de Trévarès qui est en lumière en ce moment. Et vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé?
Oui, alors là, donc c'était un marché public de prestations de design et de scénographie. Donc l'idée, c'était de créer une exposition permanente dans un espace des écuries, enfin des anciennes écuries du château, qui ont été reconverties ensuite en différents espaces pour l'exploitant, le PCC, Chemin du patrimoine en Finistère. Et l'idée, c'était donc de proposer un intérieur qui parle du souvenir, de la mémoire. Et donc, nous, on a créé un décor scénographique qui rappelle vraiment une maison, en fait. C'est-à-dire qu'on rentre chez quelqu'un et en fait, on va fouiller dans les meubles pour trouver des traces du passé.
Alors
En
on fouille
l'occurrence, ici,
librement dans les
du...
meubles?
Oui, voilà. L'idée, c'est de donner des indices aux gens. Donc, on a récupéré un certain nombre d'objets donc en recyclerie et puis... avec Emmaüs et aussi via Le Bon Coin pour certains, et puis aussi des objets personnels, par exemple qu'on a pu aussi donner, voilà, qui ont servi dans l'exposition et qui servent toujours. Et l'idée, c'était de pouvoir en fait augmenter entre guillemets ces objets qui avaient déjà une mémoire, qui étaient déjà en fait qui avaient déjà servi, qui étaient peut-être abîmés pour certains, les augmenter en fait de mémoire sonore, puisque le but c'était de diffuser en fait un certain nombre d'extraits au public, de témoignages d'habitants autour de Trévarez et puis de touristes, voilà, qui sont passés autour pendant les années où il était fermé ce château, puisque après-guerre, après le bombardement, c'était un château qui était à l'abandon. Donc il y a eu voilà un certain nombre d'histoires qui se sont passées là-bas et d'aventures. Et donc, cette expo relate ça. Donc, l'idée pour nous était en fait de compléter cette envie de mémoire par des objets mémoriels. C'est-à-dire que ce sont des objets vivants, ce sont des objets qui ont appartenu, qui appartiennent et qui appartiendront. Et ce n'est pas nous qui les avons dessinés. Et on les a augmentés, du coup, d'éléments de diffusion sonore. Donc, tantôt une petite radio, tantôt un téléphone, tantôt. Un petit écouteur pour pouvoir parcourir ses souvenirs. Et donc l'ensemble de l'exposition est créé comme ça avec des mobiliers anciens sur lesquels on a ajouté en fait des parties de bois clair avec des éléments imprimés et puis des éléments de diffusion audio. Voilà.
D'accord. Alors, on a encore un tout petit peu de temps. Je vais quand même vous poser quelques questions. Est-ce qu'on peut qualifier votre travail de design social?
Alors, à partir du moment où le design, pour moi, c'est quelque chose qui est lié à nous, les humains, qui vivons ensemble, c'est forcément un design social. Enfin, en tout cas, c'est même trop de dire que le design est social, puisqu'il l'est par essence, quoi.
Et je vais vous citer pour je vais vous citer avec une dernière question. Pourquoi le design doit-il être fragilisé?
Alors, j'avais parlé de ça.
Oui.
Je pense que vous reprenez en fait ce que j'ai un peu l'ouverture de l'intervention que j'ai fait auprès des élèves du Paraclet dans la conférence Coms Design que vous évoquiez en début d'émission. En fait, fragiliser. L'idée, c'est pas de les rendre fragiles en tant que tels et cassants. Hein, c'est pas ça, mais c'est de fragiliser l'image qu'on se donne d'un design efficace. En fait, je vais prendre l'idée d'une berline, par exemple, un bon V8 là, vraiment rutilant, très très beau, très racé, très agressif. Et puis, il est indestructible. Il y a rien de ridicule finalement sur cet objet. Il exprime une certaine forme de virilité ou de puissance. Et en fait, il n'exprime pas finalement l'humain dans toute sa diversité. Et finalement, nos voitures, nos objets du quotidien, c'est drôle, puisque là, je parle d'un objet qui nous permet de nous déplacer. C'est très factuel de se déplacer. Est-ce qu'aujourd'hui, ça doit ressembler à ça, une voiture? Je ne sais pas. Et du coup, cette fragilisation que je souhaiterais, moi en tout cas, c'est une fragilité poétique. C'est-à-dire qu'il faut lui amener en fait quelque chose qui fasse référence à nos souvenirs, à nos vies, mais pas et à nos corps aussi. Voilà, mais pas forcément à une efficacité industrielle ou à une rapidité. Voilà.
Merci beaucoup, Antoine.
Avec plaisir.
Au revoir.
Au revoir.